bienvenue sur une fréquence associative et sans pub, le 99.9. C'est Info 30 sur PFM à 7h30, 12h30 et 18h30 avec Bernard et Boris au micro et Camille à la réalisation. Le Centre d'éducation pour jeunes sourds d'Arras organise une semaine contre la discrimination du 19 au 23 janvier. Au cours de cette émission, nous présenterons d'abord les organisateurs du CEJS avec Monsieur Philippe Jamard dans quelques secondes. David Lobry sera l'interprète des jeunes sourds et malentendants. Il présentera son métier d'interprète de la langue des signes. Stéphane Glorian, professeur au CEJS, nous présentera ensuite le programme de la semaine contre les discriminations, où une exposition sera proposée et ouverte au public le jeudi 22 janvier de 13h à 17h. Madame Claudine Kayser, professeure aussi au CEJS, nous parlera de la HALD, Haute Autorité pour la lutte contre la discrimination et pour l'égalité. Les élèves nous feront part de leurs témoignages face à la discrimination. Ensuite, nous écouterons un micro-trottoir effectué par Jean-Sébastien, Stéphanie, Elodie et Camille sur la question « Pour vous, qu'est-ce que la discrimination ?» Nous allons d'abord présenter le CEJS avec Monsieur Philippe Jamard, chef de service du secteur technique et professionnel.
Oui, le CEJS, le Centre d'éducation pour jeunes sourds. Donc ce centre accueille des déficients auditifs et il se situe 10 rue des Augustines à Arras. C'est une structure qui est gérée par l'association Jules Catoire Audition, Parole et Communication, dont le président est Monsieur Guy Labène et le directeur général est Monsieur Christian Brelinski. Le CEJS accueille cette année 275 jeunes de 0 à 22 ans, des tout petits en éducation précoce jusqu'aux plus grands qui poursuivent des études secondaires et même universitaires ou qui suivent tout simplement une formation professionnelle. Le CEJS a comme objectif, il essaye d'apporter des réponses pédagogiques adaptées aux divers problèmes que pose la surdité, aux problèmes de communication par exemple, et certains de nos jeunes bénéficient en milieu ordinaire d'une scolarité avec soutien et accompagnement d'enseignants spécialisés, et ce dans les établissements scolaires de la communauté urbaine d'Arras. Les autres sont scolarisés au centre même, dans des classes avec un enseignement adapté à leurs difficultés. En fait, il y a un projet personnalisé pour chaque jeune qui est scolarisé chez nous. Le CEJS possède aussi un internat de 115 places, car les jeunes qui sont accueillis viennent parfois de bien loin. Tout est mis en place pour permettre aux jeunes un développement harmonieux et qu'ils puissent adhérer progressivement aux réalités sociales et professionnelles de la société moderne.
Merci Philippe Jamard. Au cours de cette émission, des élèves s'exprimeront en langue des signes et c'est David Lobry qui sera l'interprète. Et nous allons profiter de sa présence pour qu'il nous parle de son métier, c'est-à-dire interprète de la langue des signes. David, comment es-tu venu au langage des signes et à en faire un métier, c'est-à-dire ton métier d'interprète?
Donc oui, moi je suis David, je suis interprète français langue des signes. Donc je travaille notamment au CEJS. Et ce métier est venu en fait en fréquentant des sourds, sans vouloir en faire forcément mon métier. Et puis bon, le fait de m'ouvrir aux autres fait que j'ai voulu apprendre la langue des signes. Et le fait de faire cet effort vers eux, ils ont fait l'effort vers moi, et puis finalement, au fur et à mesure, je suis devenu interprète. Et puis donc aujourd'hui, je traduis les échanges de ces jeunes qui sont là, qui sont venus au studio de PFM, pour qu'ils puissent s'exprimer dans leur langue, enfin dans la langue qu'ils ont choisie, soit à l'oral, soit en langue des signes.
Alors David, je sais que tu as déjà fait des formations pour les entendants qui étaient intéressés par la langue des signes. Et qu'est-ce qui motivait les entendants à justement apprendre la langue des signes dans ces ateliers que tu proposais ou on t'invitait?
Juste préciser que je ne faisais pas les cours de langue des signes. J'organisais ces formations quand j'étais étudiant en fait.
D'accord.
Mais les formateurs étaient des personnes sourdes. Je pense que c'est très important que ce soit les personnes sourdes qui ont la langue des signes. Même si moi, je peux me considérer comme bilingue, sur les personnes sourdes elles-mêmes qui fassent leur formation. Parce que c'est leur langue à part entière, c'est leur langue à elles. Donc elles sont les personnes les mieux à même de, de l'enseigner.
Et qu'est-ce qui motivait donc les entendants à apprendre le langage des sourds sans être eux-mêmes confrontés, je pense, enfin c'est ce que je pense, hein, nécessairement avec un proche qui était sourd.
Oui, bah juste avant, une précision, enfin, généralement les personnes sourdes n'aiment pas qu'on dise langage des sourds, c'est plutôt langue des signes.
Des signes, ouais.
Voilà, donc c'est juste une précision. Sinon, les personnes qui veulent apprendre la langue des signes, souvent ce sont des personnes qui ont des proches dans leur famille qui sont sourds, hein, ça peut être des cousins, des enfants, des parents, ça peut être aussi des personnes qui ont envie de, comme moi, hein, à l'époque, de s'ouvrir vers les personnes sourdes, donc de communiquer avec elles. Des personnes qui ont envie d'apprendre une langue différente de la leur, hein, comme on apprend l'anglais, l'espagnol, l'allemand, ils ont envie d'apprendre la langue des signes. Des personnes qui veulent en faire leur métier aussi, hein, donc comme Stéphane ou Claudine, qui apprennent la langue des signes, ou des éducateurs, ou autres, quoi. Des personnes aussi qui apprennent la langue des signes pour communiquer directement, des avocats, comme dit Stéphanie, directement en langue des signes. Et ça, c'est bien.
Stéphanie va intervenir, ses propos sont traduits par le même David.
Pour David, c'est ça qu'il interprète, oui bien sûr, c'est que quand il y a un professeur qui enseigne, bon David n'enseigne pas, mais c'est que il y a le cours et l'interprète est présent. Et c'est que souvent l'interprète, bon, on a besoin de lui, mais il faut pas oublier qu'il a une double casquette, hein, c'est un professionnel, il peut pas s'investir.
Sur PFM, vous écoutez Info 30 et nous allons parler à présent de cette semaine des discriminations qui se déroulent du 19 au 23 janvier avec Stéphane Glorian et Claudine Kaiser. Ils vont nous parler du programme. Nous allons commencer d'abord par l'exposition. Qu'est-ce que vous allez proposer ?
Un nombre assez considérable de panneaux, d'affichages. Donc des élèves ont travaillé sur des récits.
Il y a également des petites scénettes de théâtre qui ont été filmées,
ah oui, hein,
illustrant
des situations. Donc les élèves ont imaginé une situation de discrimination ou ont fait état d'une situation qu'ils ont observée. Ils ont écrit les dialogues et ensuite ont joué une scénette représentant cette situation.
Donc toutes ces vidéos pourront être visibles dans le cadre de l'exposition.
Oui, oui, tout sera passé en boucle. Et donc il y a eu aussi une production intéressante. Il s'agit d'un film qui est d'ailleurs fort bien réalisé et que les gens pourront découvrir au moment où les portes de l'exposition seront ouvertes, voilà, pour le public.
Dans le cadre des différentes actions, il y a également un travail qui a été fait par d'autres groupes d'élèves du CEJS, pas uniquement les élèves de Bac Pro. Hein.
Alors une exposition qui sera ouverte au public lors d'une après-midi, c'est ça ?
Ah oui, elle sera ouverte au public donc le jeudi 22 janvier de 13h à 17h. Donc l'exposition aura lieu en la salle des fêtes du CEJS.
Il y a une structure particulière dans l'exposition, dans le programme, dans ce que vous avez mis. Donc là, on parlait de vidéos.
C'est il s'agit d'un parcours, donc qui sera un parcours durant lequel on pourra découvrir donc des affiches, des productions diverses, des témoignages, des photographies qui ont été réalisées sur le thème, des films donc comme on le disait qui tourneront en boucle. Aussi il y a un grand panneau enfin que je laisse le plaisir de découvrir aux spectateurs, mais un grand panneau qui a été réalisé par notre atelier peinture, quelque chose de magnifique, j'ose le dire. Donc venez voir, ça vaut le coup. Des instruments de musique aussi seront exposés. Des instruments d'origine, enfin des instruments du monde entier, des instruments de musique du monde entier. Ces instruments ont été utilisés dans le cadre des ateliers, hein, que nous conduisons en CEJS. Il y aura aussi un making-of qui sera proposé, donc où on montrera toute la phase préparatoire, parce que ça représente quand même un travail assez considérable. Et il y aura aussi une petite surprise, mais voilà, enfin, vous découvrirez à la fin de l'exposition. Mais je ne vous en dis pas plus.
Moi, je souhaiterais évoquer deux, trois panneaux de cette exposition qui présentent la HALD, qui est donc la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Alors, personnellement, j'ai souhaité que ces panneaux figurent pour montrer qu'il y a des recours en cas de situation discriminatoire. Et c'est, donc cet organisme, la HALD, a été créé finalement très récemment par rapport à l'histoire des discriminations, puisqu'elle a été créée par une loi en 2004. Et elle a aussi, ce travail sur la connaissance de cette organisation a permis aussi que les jeunes se rendent compte que les discriminations ne sont pas uniquement liées à un problème de couleur de peau ou de handicap, puisque c'est celle dont ils ont la perception la plus facile, mais qu'elles peuvent être aussi liées à l'âge, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'état de santé, à une situation de famille. Enfin, il existe comme ça officiellement 18 critères de discrimination qu'on a bien essayé de détailler, de comprendre et qu'on fait figurer dans l'exposition. Et pour reprendre la définition, la base d'une discrimination, j'ai aussi souhaité qu'ils soient conscients qu'il s'agit d'un non-respect des droits qui sont les mêmes pour tous, comme stipulé au départ dans la Déclaration des droits de l'homme. Et une discrimination donc peut se retrouver dans le cadre d'institutions en particulier, et c'est là-dessus que la HALD peut intervenir, c'est-à-dire dans une situation de travail, une situation d'école, une situation par rapport au droit à la santé, par rapport au droit au déplacement, au transport. Et donc je pensais qu'il était important qu'ils aient conscience que quand ces droits n'étaient pas respectés, il y avait des recours possibles et qu'ils pouvaient se défendre. Donc il y a effectivement des panneaux qui présentent cet aspect plus juridique, mais qui est un outil fondamental, sinon on n'avance pas. Alors je précise aussi qu'il existe au centre à Saint-Nicolas, il existe une permanence de la HALD et on peut trouver les coordonnées sur Internet. Stéphane, tu peux peut-être rappeler les différents partenaires qui participent à ce projet de la semaine des discriminations.
Oui, on travaille avec l'INJS de Paris, Institut National des Jeunes Sourds de Paris. Donc en collaboration avec des professeurs, et puis donc deux groupes classes qui vont venir nous rendre visite le lundi 19, qui partageront avec nous une ciné-conférence et qui le lendemain nous accompagneront à Notre-Dame-de-Lorette. Et je tiens quand même à préciser qu'on travaille aussi avec le lycée Carnot. Donc toutes les activités qui sont organisées tiendront dans la semaine qui est bloquée entre le 19 et le 23 janvier 2009. L'exposition sera ouverte au public le 22 janvier, le jeudi 22 janvier, après-midi, de 13h à 17h.
Est-ce que c'est parce que certains élèves à déficience auditive rencontrent des problèmes dans la société que l'idée est venue d'organiser cette semaine de la discrimination ?
Non, pas du tout, parce que la discrimination fait partie du programme d'éducation civique, tout simplement. Donc le thème a été abordé à plusieurs reprises durant les années précédentes. Cette année et puis l'an passé, j'ai souhaité insister et faire ressortir un peu plus ce thème parce qu'on assiste, comme disait Claudine, on assiste à beaucoup de manifestations, de la discrimination, et on souhaitait donc appuyer vraiment sur ce thème et l'exploiter à fond et faire participer un maximum les élèves et toute l'équipe pédagogique et éducative.
On va parler de la communication. Les nouvelles technologies peuvent-elles faciliter les relations pour les élèves grâce à Internet et les SMS?
C'est un progrès énorme, les SMS, pour eux.
Et pas seulement les SMS, la visioconférence rend plus d'un service aux interprètes. Je pense aussi aux interprètes en ligne, les services d'interprétariat en ligne, qui sont des options très intéressantes pour les sourds. Quand il s'agit de téléphoner, d'entamer des démarches administratives, de consulter le médecin, ça peut être vraiment très intéressant.
Oui, par exemple, le service Guy Caro, dit Chloé, par exemple, oui.
Alors, comment se passe la communication à l'école? Vous utilisez plus la langue des signes ou une formation à l'oralisme?
Alors, nous utilisons tous les modes de communication à notre disposition. Faut savoir que nous avons donc une orientation, je dirais, oraliste. Par contre, nous n'excluons pas les signes, donc les signes empruntés à la langue des signes, pour s'exprimer, disons, dans une espèce de langage qu'on appelle, nous, le français signé. Donc ça nous permet de présenter aux sourds la syntaxe du français. On aide à la compréhension en utilisant les signes. Donc cette présentation concerne surtout notre secteur, mais à l'échelle de l'institution, les choses sont un petit peu plus complexes.
On va demander aux élèves qui, nous le rappelons, sont des élèves du Centre d'éducation pour jeunes sourds à Arras, de nous parler des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans la vie. Donc là, c'est Stéphanie.
Donc souvent, en fait, je vais sur des chats, sur Internet, je parle avec des personnes entendantes. Et donc je bavardais avec ces personnes-là. Bon, j'avais des bonnes relations dans la durée. Et à partir du moment où je leur ai dit que j'étais malentendante ou que je leur dis que je suis sourde, ben d'un coup, plus rien, plus de communication, plus personne ne veut communiquer avec moi. Et là, je me sens rejeté. Voilà, et c'est pas juste.
Témoignage de Chloé.
Donc j'ai vu une fille qui se moquait d'une autre fille. Parce qu'elle était grosse, elle a même traité de grosse vache, de baleine, et ben sans commentaire quoi.
Jean-Sébastien.
Souvent, les gens regardent les sourds parce qu'ils aiment les voir s'exprimer en langue des signes. Ceux qui se moquent n'ont rien compris. Je les plains.
C'est Elodie, toujours traduit par David.
Un élève de notre école fait écrire des pins les pins. J'ai entendu d'autres élèves dire qu'ils n'avaient pas sa place dans notre école.
C'est-à-dire qu'elle disait que...
Un élève chez nous, dans l'établissement, est sujet à des crises d'épilepsie. Et d'autres élèves ont dit que cet élève n'avait pas sa place dans l'établissement.
D'accord.
Donc il s'agit là d'un regard discriminatoire par rapport à un problème de santé. Et donc là, ce n'est pas du tout par rapport au handicap. Donc c'est effectivement intéressant aussi de le pointer.
Oui, ça nous permet de sortir d'une vision unique de la discrimination très souvent associée au racisme, au seul racisme. Les discriminations, c'est beaucoup plus que le racisme. Ça revêt d'autres formes.
Pour Info 30, un micro-trottoir réalisé par les élèves du CEJS d'Arras. On rappelle le principe du micro-trottoir, c'est de sortir dans la rue et d'aller à la rencontre des autres. Donc, ils ont posé chacun la question. Pour vous, qu'est-ce que la discrimination?
Pour vous, qu'est-ce que c'est la discrimination?
C'est l'indifférence des gens.
Ben, c'est laisser l'autre de côté et puis pas faire attention à lui surtout.
Eh ben, c'est un manque de tolérance par rapport à tel handicap ou telle idéologie. Voilà.
Pour vous, qu'est-ce que c'est la discrimination?
C'est le non-respect de toute personne vivant sur cette terre.
C'est rejeter les gens, c'est ça?
C'est quand on met quelqu'un à l'écart par rapport à une différence.
Ils sont différents de soi.
Pour vous, c'est que c'est la discrimination?
La discrimination, c'est du racisme.
C'est comme une personne normale a traité quelqu'un de différent.
C'est quand on fait des différences entre les personnes.
Un manque de connaissances envers l'un et l'autre.
Ce micro-trottoir a été réalisé par les élèves du CEJS. Vous qui avez réalisé ce micro-trottoir, qu'avez-vous pensé de la réaction des personnes sur la question des discriminations? D'abord Stéphanie et ensuite Elodie, traduit par David.
Ce que je vois, c'est que les personnes, quand elles s'expriment, en fait, elles ont un peu un regard vers elles-mêmes, hein, sur voir justement comment se passer les discriminations, le fait qu'elles puissent avoir des explications, aussi que les personnes, je sais pas, elles savent pas pourquoi on peut être rejeté, qu'il faut pas non plus, garder cette discrimination, faut pas la conserver, il faut s'ouvrir, il faut savoir s'ouvrir vers l'autre, etc. Et pour nous, c'est important aussi, justement que les gens découvrent que la discrimination existe et ne pas l'accepter, mais au contraire la rejeter. Il y a aussi, dit Elodie, des personnes qui savent pas ce que ça veut dire, qui ne connaissent pas nos difficultés. Il y en a beaucoup de personnes comme ça qui ne savent pas en fait que les gens peuvent être discriminés.
Boris, pour PFM, quelques questions.
Alors moi j'ai une question, est-ce que vous savez déjà un peu tous ce que vous allez faire après l'école? Vous avez déjà un but, un métier en tête?
C'est que là, Stéphanie, on est en communication graphique et tout, on espère trouver un travail, on fait une formation, il y a des choses qui vont se créer, on sait qu'avant il y avait vraiment beaucoup de discrimination, on essaie de progresser, mais c'est vrai qu'on est toujours obligé de faire d'autres formations, d'autres programmes, parce qu'on a toujours des obstacles dans les formations qu'on fait, dans les métiers qu'on veut faire, etc. Il faut pas non plus oublier qu'on aura un diplôme, il faut qu'on aille jusqu'au bout de nos compétences, et que voilà, qu'on est compétent autant que les autres, même si on est sourd.
Je pense que ce que Stéphanie vient de dire là est fondamental. À compétences égales, est-ce qu'ils seront embauchés ou pas? Et s'ils ne sont pas embauchés, ça sera à cause de leur surdité. Et ça, c'est typiquement discriminatoire.
Oui, justement. Moi, je pensais... je me rappelle, il y a quelques temps, je ne sais plus quelle loi, en quelle année, mais la situation en France a évolué, mais il y avait une entreprise où il disait qu'il fallait embaucher les personnes handicapées dans les entreprises. Mais souvent, ces entreprises ne respectaient pas, ils préféraient payer une amende. Donc ça, c'est quand même de la discrimination, et je trouve que c'est dommage, par exemple. C'est dommage. Moi, je pense qu'il faut que les entreprises acceptent de prendre des personnes handicapées, que c'est important, ne serait-ce que on peut faire des efforts de communication, passer par l'écrit ou autre, mais il ne faut pas chercher non plus des problèmes partout. Il faut accepter, ne serait-ce que des bases de communication. Il ne faut pas rejeter l'autre parce que voilà, il est handicapé.
Ça, c'était le témoignage de Stéphanie. Donc, Chloé, peut-être ?
Moi, ça me fait peur. Je ne sais pas comment... Si je vais être refusé, je sais pas, parce que le fait que je sois sourde, c'est pour moi c'est difficile. J'ai pas envie de me retrouver au chômage, voilà, toute ma vie, parce que j'ai envie de travailler.
Élodie,
c'est vrai que la communication, d'Élodie, c'est difficile. C'est comment on fera pour communiquer? Ça, je sais pas.
Ouais, alors bon, une question un petit peu plus légère. Alors, quand vous sortez pour boire un verre avec les copains, les copines, vous sortez entre vous ou vous mélangez vraiment avec tout le monde
En général, moi, se dit Stéphanie, en général, moi, je fréquente vraiment beaucoup plus les sourds. C'est beaucoup plus naturel. Parce que les entendants, avec eux, je m'ennuie. Hein, parce que. Faut pas croire non plus, chaque fois je dois toujours aller vers eux, les appeler, etc. Je me retrouve un peu discriminé parce que je suis obligé de faire l'effort vers les entendants. Et du coup, au bout d'un moment, je laisse tomber et je rejoins les sourds. Et je trouve quand même que ça, c'est dommage. D'accord. Je suis d'accord, dit Chloé. Je suis tout à fait d'accord avec Stéphanie. C'est vrai que moi, je préfère fréquenter les sourds que les entendants. J'ai moins de difficultés. Nous, dit Stéphanie, on n'est pas handicapés. Hein, au contraire, nous, on fait l'effort d'aller vers les autres, d'échanger. On fait l'effort de parler vers les autres même. Mais souvent, les gens, ils pensent pas forcément à nous. Et ça, c'est dommage.
Mmh. Mais est-ce que c'est peut-être pas une petite forme de discrimination, finalement, de votre part?
À mon avis, non, c'est pas la discrimination vers les entendants. C'est nous, on veut bien aller vers les entendants et tout, on veut bien se mélanger à eux, mais on est ouvert vers eux, etc. Mais souvent, il y a la spécificité aussi des communautés. C'est vrai que souvent, les entendants ne nous acceptent pas, donc du coup, on s'en rejette, donc du coup, on va vers les sourds.
Ok.
Et moi, dit Chloé, moi j'en ai marre. C'est toujours nous, les entendants, qu'on doit appeler les autres. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. On est toujours obligé de les appeler. Et eux, ils font jamais l'effort d'aller vers nous, de nous informer. C'est toujours nous qui devons aller vers les autres. C'est toujours ça. Et au bout d'un moment, forcément, on en a la marre, quoi.
Est-ce que vous revendiquez dans certaines situations, notamment dans les systèmes administratifs, les magasins, etc. Est-ce que vous revendiquez une certaine autonomie ou est-ce que vous êtes toujours obligé d'être accompagné par quelqu'un pour ne pas justement être un peu pris de court?
Ça dépend des personnes qu'on va voir. C'est vrai que des fois on peut être autonome, on peut se débrouiller, on peut s'exprimer normalement, ça va. Mais ça dépend si la personne, si elle est timide, si elle est réservée, ça dépend des situations de chacun. Tout le monde est différent. Moi, par exemple, si j'ai un rendez-vous ou si je dois contacter un système de visio-interprétation, par exemple, oui, je peux le faire moi-même. Mais il y a d'autres personnes, je sais pas, au tribunal, si je dois avoir un avocat, là, oui, je fais appel à un interprète, par exemple. Moi-même, si j'irais toute seule voir un avocat, je serais noyé. Je suis obligé de faire appel à une personne intermédiaire, oui.
Donc, merci d'être passé à Radio PFM. Stéphane, qui fait partie aussi de Radio PFM en tant que bénévole et qui est formateur au CUJS, tu peux peut-être nous représenter toutes les personnes qui ont participé à cette émission.
Oui, donc j'ai en face de moi Madame Kayser, Claudine, donc qui est ma collègue. Nous travaillons très près l'un de l'autre. ensuite, donc Monsieur Laubry, David Laubry, qui est l'interprète, brillant interprète du CEJS. Ensuite, nous avons donc Jean-Sébastien, qui est un des élèves de la classe de bac pro artisanat et métiers d'art. Donc il y a Jean-Sébastien, Elodie, Stéphanie, Camille et Chloé.
Monsieur Jamard aussi qui était là.
Monsieur Jamard qui a dû nous quitter pour obligation professionnelle. Et voilà, je le remercie d'être venu avec nous et d'avoir souhaité participer à l'émission.
Merci à tout le monde.
Merci.